avoir, un certain nombre de, résultats. Je voudrais tout d'abord vous, remercier d'être là et de discuter les résultats qui vont vous être présentés. Et je trouve que la recherche et les résultats qui vont vous être présentés sont tout à fait exemplaires de ce que doivent être les recherches dont l'INSERM souhaite être promoteur, dans la mesure où il s'agit effectivement de, d'un passage de la recherche fondamentale vers la thérapeutique. Et c'est vraiment ce type d'innovation que l'INSERM doit pousser jusqu'au bout pour arriver à la thérapeutique. Et la recherche qui va vous être présentée est aussi exemplaire de la durée du temps qu'il faut pour arriver à ce type de choses, puisque traitement de l'adrénolocodystrophie dont on parle aujourd'hui a été débuté il y a plus de 20 ans, notamment par le professeur Griselli, professeur Bunière et le professeur Bourg. Et les recherches pour arriver maintenant à ce travail, ça nécessite que ces recherches puissent être réalisées avec une collaboration exemplaire entre INSERM, assistance publique, les services cliniques en particulier, et à la fois l'INSERM ici et l'INSERM Transfert, et le projet, non seulement au niveau de sa réalisation maintenant, a été soutenu par l'Association européenne contre les leucodystrophies, et je salue son président, et par l'Association française contre les myopathies, et je salue la présence de Mme Thiénot-Hermant. Donc, je crois que c'est tout à fait exemplaire de type de recherche qui va être soutenu et promu par l'INSERM. Promu par l'INSERM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'INSERM assure, est garante de la qualité des données et aide en particulier sur le plan réglementaire. Je voudrais terminer aussi en saluant Science, qui est non seulement présent à cette conférence de presse, mais va permettre de diffuser sur le plan scientifique ses résultats. Donc je ne vais pas vous en dire plus, simplement en souhaitant qu'on ait l'occasion de se revoir très souvent pour pouvoir avoir ce type de résultats.
Merci beaucoup. Bonjour, je suis Natacha Pinon, représentant la revue Science au bureau de programme public de l'Association américaine pour l'avancement de science, ou AAAS, la société scientifique internationale à but non lucratif qui publie les revues de la famille de Science. C'est pour nous un privilège de collaborer avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, à l'occasion de ce point presse international à Paris. Science a le plaisir de publier des résultats de recherche en thérapie génique utilisant des cellules souches. Je vous remercie à l'avance de vous conformer aux conditions d'embargo de notre revue. L'article de Science intitulé Hematopoietic Stem Cell Gene Therapy with a Lentiviral Vector and X-Linked Adrenoleukodystrophy et tous les documents fournis au cours de cette conférence resteront sous embargo jusqu'au jeudi 5 novembre, 20h pour l'heure d'Europe centrale ou 14h pour l'heure de l'Est américain. L'article sera publié dans le numéro de Science du 6 novembre. Nos intervenants de cet après-midi donneront un résumé d'environ 3 minutes de leur première conclusion en français, puis en anglais, et une séance de questions sera ensuite ouverte pour les médias. Les participants à la conférence de presse aujourd'hui sont Dr. Stella Hartley, rédactrice senior des bureaux européens de Science à Cambridge, qui commentera l'implication de la revue Science dans la publication de cette recherche. Dr. Nathalie Cartier, première auteure de l'article pédiatre, directrice de recherche à l'INSERM et qui dirige à l'unité 745 de l'INSERM tous les programmes de recherche en biothérapie portant sur l'adrénoleucodystrophie liée à l'X, la leucodystrophie métachromatique et la maladie d'Alzheimer. Dr. Patrick Aubourg, auteur principal de l'article, professeur de pédiatrie, directeur de l'unité 745 de recherche de l'INSERM à la Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Paris-Descartes également directeur du service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris. Docteur Christophe Ancala, de la direction du Centre national pour les maladies tumorales de Heidelberg en Allemagne, et directeur du service d'oncologie translationnelle au Centre allemand de recherche sur le cancer. Il est un des auteurs seniors de cet article. Docteur Salima Hassein Bey Abina, professeur d'immunologie à l'Université Paris-Descartes, directrice de l'unité de thérapie génique dans le service de biothérapie de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, où ont été traités les enfants atteints d'adrénoleucodystrophie. Elle est chercheuse à l'unité de recherche 768 de l'INSERM et co-auteure de l'article et aussi déléguée du Centre d'investigation clinique en biothérapie du groupe hospitalier universitaire Ouest INSERM, assistance publique hôpitaux de Paris. Deux autres co-auteurs sont présents dans l'assistance et pourront aussi répondre aux questions. Docteur Marina Cavazzana Calvo, pédiatre, professeur d'hématologie à l'Université Paris-Descartes, directrice du service de biothérapie à l'hôpital Necker Enfants Malades et d'une équipe de recherche à l'unité 768 de l'INSERM ainsi que du Centre d'investigation clinique en biothérapie du groupe hospitalier universitaire Ouest-INSERM, assistance publique hôpitaux de Paris. Docteur Alain Fischer, professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Descartes, directeur du service d'immunohématologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades, ainsi que de l'unité de recherche de 768 de l'INSERM. Dr. Stella Hartley, est-ce que vous voulez commencer?
Would you like to start?
Bonjour. I'm going to speak in English because that's all I'm competent to do, really. So science is very pleased to be able to present the results of this small pilot study that successfully introduced corrective genes into the blood stem cells from two patients with X-linked adrenoleukodystrophy. This is fatal demyelinating disorder, and it's typically treated with bone marrow transplants. But in these patients' case, a suitable bone marrow donor wasn't available, and so this pioneering gene therapeutic approach was taken. So I think on that note, I'll pass over to the authors, who can describe the work in much more detail.
Les résultats, l'article qui va être publié dans Science le 6 novembre rapporte les résultats d'un essai de thérapie génique qui a été réalisé chez deux enfants atteints d'une maladie grave démyélinisante du système nerveux central qui est l'adrénoleucodystrophie, avec pour la première fois l'utilisation d'un vecteur dérivé du VIH. Les résultats de cet essai sont importants à deux titres. D'une part, parce que c'est la première fois qu'on utilise un vecteur viral dérivé du VIH pour corriger les cellules souches de la moelle osseuse. Et c'est la première fois qu'avec ce vecteur, on a réussi à corriger un nombre important de cellules souches de la moelle osseuse, puisqu'on a réussi à corriger environ 15% à long terme, jusqu'à 3 ans, chez les patients traités de ces cellules. Si l'on compare aux quelques 0,01% de cellules corrigées que l'on obtenait avec les vecteurs qu'on avait à notre disposition jusque-là. C'est la première fois qu'on arrive à avoir un tel résultat en l'absence d'avantages sélectifs dans une maladie, c'est-à-dire dans toutes les maladies où les cellules malades n'ont pas d'avantage, les cellules corrigées n'ont pas d'avantage particulier sur les cellules déficientes. Donc c'est un résultat très important car il ouvre la porte, bien évidemment, à tout un tas d'autres maladies en dehors de l'adrénoleucodystrophie, qu'il s'agisse de maladies du sang, comme la thalassémie, comme la drépanocytose, ou qu'il s'agisse, bien sûr, d'autres maladies du cerveau. Il faut bien insister, et Christophe Van Kalle le fera tout à l'heure, sur le fait que pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'inquiétude sur le plan de la tolérance de l'utilisation d'un tel vecteur pour corriger ces cellules de la moelle osseuse. La deuxième raison pour laquelle cet essai est important, c'est que c'est la première fois
qu'on corrige par thérapie génique une grave maladie du cerveau. L'adrénoleucodystrophie est une maladie neurodégénérative, démyélinisante. Deux patients ont été traités. Et chez ces deux patients, l'évolution après la thérapie génique est exactement la même qu'après une greffe de donneur, puisque c'est le seul traitement actuellement utile dans cette maladie jusqu'à la thérapie génique, c'est la greffe de donneur. Les patients ont exactement la même évolution, c'est-à-dire 14 mois après le traitement, une stabilisation complète de leur maladie démyélinisante. Cela signifie que ces enfants vont bien, qu'ils sont actuellement capables d'aller à l'école, d'avoir une vie sociale, une vie familiale normale, et qu'il n'y a pas de raison pour penser que cela puisse évoluer défavorablement à partir d'aujourd'hui. Donc c'est évidemment très important, car c'est un résultat positif et en l'absence des complications qui sont liées à la greffe de donneur. La greffe de donneur expose à des complications graves qui peuvent conduire au décès des patients, et le greffer les propres cellules corrigées par la thérapie génique à des enfants permet d'éviter ces complications graves. Au-delà des deux enfants traités, notre objectif est évidemment de traiter davantage d'enfants, mais également de traiter des patients adultes atteints de cette maladie, car chez les patients adultes, les complications de la greffe de donneur sont encore bien plus importantes que chez l'enfant, et pouvoir les traiter donnera un espoir thérapeutique pour un très grand nombre de patients.
Merci. Je suis évidemment très content d'être là aujourd'hui, après plus de 16 ans de travail, d'efforts, d'espoir pour cette maladie. C'est l'aboutissement d'une collaboration remarquable entre l'INSERM et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et à cet égard, je voudrais remercier Christian Bréchaud, ancien directeur de l'INSERM, et Nicolas Best, ancien directeur de la DRC à la BHP, qui ont permis, il y a quelques années, de pouvoir établir cette collaboration, une collaboration de base qui a été remise en scène par Gérard Ballin à ma gauche et Christophe Miss à la DRC plus récemment. Alors, INSERM, bien sûr, à travers ses unités de recherche à Saint-Vincent-de-Paul, où tout le travail préclinique, mais également biologique de CTC a été réalisé. INSERM aussi, et j'ai vraiment un petit mot particulier pour Eric Poster et Corinne Sébastiani, à la BRCT, qui nous ont aidé à mettre en œuvre évidemment tout cet essai clinique depuis quelques années. L'assistance publique, bien sûr, puisque c'est dans ces services que les enfants ont été traités, donc je remercie la PHP d'avoir mis à disposition ces services, ces infirmières, ces docteurs, et également, et c'est un point important, le département de biothérapie où les cellules ont pu être corrigées et qui est dirigé par le docteur Marina Cavazzana. Je voudrais également remercier mes collègues. Bien évidemment, une manière importante et chaleureuse, le professeur Marina Cavazzana et le professeur Selima Sembe, et également le docteur Nizar Malawi et le professeur Alain Fischer. Ceci n'aurait pas pu se faire sans eux. C'est dans à la fois dans leurs services respectifs que les cellules des patients ont été corrigées, c'est dans leurs services qu'ils ont été traités, et on a bénéficié évidemment de leur soutien et de leur expérience et de leur savoir-faire et de leurs conseils. Je voudrais également remercier très chaleureusement Christophe Ankele du NKFZ à Heidelberg, car il a fait, et il répondra à vos questions là-dessus, un énorme travail pour suivre des possibles effets biologiques qui pourraient être liés à l'intégration de ce vecteur dans le génome, dans les chromosomes. Je voudrais également dire que tout ce travail a bénéficié de beaucoup de financements de l'INSERM, de la PHP, mais également de l'Europe, de nombreuses fondations françaises, et bien évidemment aussi, j'insiste, de l'Association française contre l'hémiopathie. Je remercie Laurence Thiénot et à travers l'action de l'AFM pour la thérapie génique de beaucoup de maladies rares. Et bien sûr, également et avant tout, l'association ELA, qui est évidemment chère à mon cœur, puisque c'est avec elle depuis 17 ans que j'essaie de lutter contre ces maladies. L'adrénoleucodystrophie étant l'une d'entre elles, il y a 22 autres leucodystrophies, et il y a encore donc du travail à faire. Je voudrais également en profiter qu'il y a une partie US de cette aventure et remercier Mesdames Amber et Rachel Salzman et la Fondation Stop AED, non seulement pour le financement qu'elles ont apporté, mais parce que un moment donné crucial, elles nous ont permis à Nathalie et moi de rentrer en contact avec les bonnes personnes au bon moment aux États-Unis pour faire le vecteur et continuer à faire tout un ensemble de choses qui étaient nécessaires pour obtenir l'autorisation de l'EFSA. Et à cet égard, je voudrais également remercier le docteur Gaber Beres qui, lorsqu'il était à cette Genesis, mais également après, nous a énormément aidé. Bon, de manière importante, je voudrais remercier aussi toutes les aides-soignantes, infirmières, surveillantes, aussi bien l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul que Necker, qui se sont dévouées pour s'occuper de ces deux petits garçons, aussi bien donc à Saint-Vincent-de-Paul que Necker. Je voudrais bien sûr remercier le docteur Nathalie Cartier à ma gauche, qui a œuvré depuis 16 ans pour ce travail. Et notre jolie, je voudrais remercier Pierre Bounière, chef de service du service d'endocrinologie neurologie pédiatrique à Saint-Vincent-de-Paul, dans lequel je travaille et dans lequel ces enfants ont été suivis, et qui est également mon ami qui a supporté ce travail depuis maintenant plus de 25 ans. Je vous remercie. I give the talk now to Christophe on my right.
Merci. Je voudrais prendre l'opportunité avant de remercier mes collègues et amis français pour nous inviter de participer au ce travail. Et je voudrais remercier vous pour comprendre ce que je dois dire en anglais. So what I would like to do is thank my French colleagues and friends for inviting us to participate in the study, and I think we are all very glad to see this enormous amount of work coming to fruition after literally decades of work that these colleagues have devoted to this. Our part in this has been to look for the whereabouts of the vector in these patients and in these models. And we have, through the possibility of new high-throughput technologies that are now available to sequence larger portions of the human genome, we have adapted these to essentially be able to study more or less very large portions of the repertoire of the insertions of these vectors. So what we can do is we can read out many or most of the locations that the vectors take in the cells of the patients. What this allows us to do is, like in other more conventional medications, to study the whereabouts of the therapeutic drug in the body of the patient, and to try and see and anticipate whether there are any side effects developing that have been seen in some of the earlier gene therapy trials. And today we can report that for the course of the follow-up that we have been following in these patients, no undue changes in the distributions of these vectors in the body of the patient have been found. And we are very glad to see that the follow-up is going forward as the investigators have planned.
Okay, we'll take the microphone to Dr. Gore.
J'ai complètement oublié de remercier l'Université Paris-Descartes parce que dans ce travail, des professeurs de médecine de la faculté Paris-Descartes, des professeurs de pharmacie de la faculté Paris-Descartes ont œuvré. Et c'est évidemment important, je les mentionne.
On lapsus.
Ah, t'as l'anglais.
Je voudrais rebondir sur cette notion de vecteur que vient d'évoquer mon collègue Christophe Van Kaal, pour préciser que finalement le type de vecteur que nous utilisons pour transférer le gène thérapeutique dans les cellules des patients, eh bien, la nature de ce vecteur joue un rôle très important et constitue en fait évidemment une contrainte dans le développement du protocole clinique au département de biothérapie afin d'obtenir une correction durable de la maladie tout en essayant de réduire au maximum les risques d'effets secondaires. Parce qu'en réalité, à chaque développement de protocole clinique, tout est une question de balance entre produire un nombre de cellules corrigées suffisamment important, suffisamment important pour garantir le traitement des malades, mais en même temps en évitant d'introduire un trop grand nombre de copies de ce vecteur dans les cellules pour justement éviter les risques dont vient de parler Christophe von Kahl. Alors ça c'est une contrainte. L'autre contrainte est liée aux caractéristiques de la maladie. On se doute bien qu'à chaque développement de protocole clinique, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a la mise au point va dépendre de la nature des cellules à corriger, va dépendre également du type de manipulation à effectuer, et pour finir, va dépendre des tests que nous allons développer pour valider ce produit thérapeutique, ces cellules médicaments qui seront réadministrées aux patients. Alors ça a l'air, ce processus a l'air simple comme ça, mais en réalité, je voulais préciser que nous avons de la chance de pouvoir faire bénéficier cet essai clinique de l'expérience que nous avions acquise il y a déjà plusieurs années de cela, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, lors de la mise en place, lors de la réalisation du premier essai de thérapie génique qui était destiné à l'époque au traitement des enfants atteints d'une forme de déficit immunitaire grave, qu'on appelle communément bébé bulle, et dont vous avez peut-être entendu parler. Et en fait, depuis effectivement plus de 10 ans, donc nous fêtons effectivement les 10 ans cette année, eh bien, depuis cette époque, nous avons mis en place, avec le professeur Marina Cavazzana Calvo, qui dirige le département de biothérapie à Necker, eh bien, une plateforme translationnelle, dont a parlé, qui a déjà été évoquée tout à l'heure, du centre d'investigation biothérapie. Et au sein de cette plateforme, nous proposons justement de transférer les projets du stade de la recherche à l'application clinique, et ça, nous avons effectivement, comme l'a évoqué Nathalie Cartier et Patrick tout à l'heure, nous avons travaillé main dans la main avec eux, d'où effectivement ce type de projet ne peut pas voir le jour s'il n'y a pas de collaboration étroite entre les équipes initiatrices des projets et nous qui arrivons un petit peu plus tard pour proposer un produit de grade pharmaceutique. Donc justement, la deuxième étape, la deuxième mission du département de biothérapie, après cette étape de transfert qui dure plusieurs années, qui en l'occurrence ici a duré 3 ans avec Nathalie et Patrick, eh bien après cette étape de transfert, nous devons proposer un procédé de production de grade pharmaceutique et produire les cellules génétiquement modifiées, les cellules médicaments qu'on va administrer aux patients. Et il est fondamental de comprendre que ces cellules, ces cellules médicaments, ce médicament qui est de niveau pharmaceutique, eh bien, garantit finalement, c'est ce niveau pharmaceutique qui garantit l'innocuité et donc la qualité de ce produit qu'on administre aux patients. Et voilà, pour finir, je vais faire comme mes collègues, c'est un peu comme les Césars, je vais dire que, effectivement, nous avons bénéficié sur le site Necker Enfants Malades de cette complémentarité d'expérience, d'expertise. Évidemment, l'expertise clinique du service d'immunohématologie pédiatrique dirigé par le professeur Alain Fischer, qui greffe depuis plus de 30 ans des patients atteints de maladies héréditaires, et notre expertise avec Marina Cavazzana Calvo du département de biothérapie. Voilà, donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu participer à ce deuxième succès, on va dire, de la thérapie. Un nouveau palier a été franchi et nous espérons en franchir d'autres. Voilà.
Merci beaucoup. Now we will open the floor to questions from reporters. Les journalistes, si vous avez des questions.
Oui, bonjour, François Boissier d'ATM. Je voulais avoir des précisions sur ce que vous faites actuellement, s'il y a déjà d'autres patients traités et quelles sont les études prévues de façon plus précise donc sur d'autres enfants, sur les adultes. Et est-ce que vous avez des études envisagées sur d'autres maladies avec le même type de vecteur?
Actuellement, nous avons traité un troisième patient pour lequel l'évolution sur le plan à la fois biologique et neurologique est tout à fait identique aux deux premiers, mais pour lequel il est encore trop tôt pour pouvoir affirmer avec certitude que sa maladie cérébrale a été arrêtée. Et ça, c'est un point très important pour tout ce qui est information qui concernerait un troisième patient traité avec succès. On ne peut pas le dire encore. L'objectif, c'est évidemment de traiter d'autres enfants, de traiter des adultes, et la manorectodystrophie touche des adultes, et c'est encore plus, je dirais, sévère chez eux, parce que le risque de la mortalité de la greffe, quand même, la longue greffe avec des donneurs qui m'arrêtent à l'un, mais c'est quand même 15%, je pense que c'est un chiffre raisonnable encore aujourd'hui, en tout cas c'est à peu près celui que j'ai dans l'année. Ce que me donne Bruno Varré pour les adultes, c'est au moins 30%, voire plus que ça. On a traité 4 adultes, il y en a 2 pour lesquels ça s'est bien passé, 2 qui sont décédés de complications de greffe. Donc c'est un véritable challenge. Donc en fait, on veut développer cet essai en France. On veut également développer un essai similaire aux États-Unis au Magen. Le nerf de la guerre, c'est de produire du vecteur et on y travaille. Et aussi, ce que l'on espère, c'est arriver petit à petit à convaincre les autorités, aussi bien en France que la FDA, et il n'y a pas très longtemps, on a eu une discussion avec la FDA, sur la possibilité de proposer la thérapie génique, non pas comme alternative s'il n'y a pas de donneur, mais comme premier traitement, sauf en cas de donneur HLA identique, frère ou sœur. Donc voilà. Autre application, oui, il y a d'autres applications qui vont démarrer bientôt, du reste avec l'équipe de Marina Cavazzana. Il y en a d'autres aussi. Il y a un essai similaire qui va démarrer en Italie pour une autre leucodystrophie, c'est exactement sur la même approche. L'essai devrait démarrer début de 2010. Il y a des essais similaires qui vont démarrer aux États-Unis avec les vecteurs antiviraux. Marina, tu as quelque chose?
Oui, Salima.
Oui, en fait. Il y en a un qui a déjà démarré, qui est un essai destiné à traiter des patients atteints de bêta-thalassémie. Et nous avons à ce jour inclus un patient, mais c'est un essai qui est basé sur l'utilisation, comme le disait Patrick tout à l'heure, sur l'utilisation de ce même type de vecteur, l'antiviral. Donc, et nous allons effectivement initier bientôt un autre essai de thérapie génique destiné à traiter des enfants atteints d'un déficit immunitaire particulier qu'on appelle le syndrome de Biscott-Aldrich. Et là, cet essai va démarrer le promoteur et Genetou. Et le vecteur, d'ailleurs, l'antiviral également, a été produit à Genetou. Et peut-être que Mme Thiénot-Herman voudrait ajouter un mot à ce sujet.
Oui, concernant donc ce projet, c'est Genetou qui a développé, produit et libéré le lot il y a de cela quelques semaines. Et ça suit son cours sur les démarches pour obtenir l'autorisation et inclure incessamment sous peu les premiers patients.
Bonjour, Agnès Vernet pour Impact Médecine. Je ne connais pas du tout cette maladie et je me demandais quelle était la proportion, si on pouvait avoir l'incidence de cette maladie en France, et en tout cas se rendre compte de la gravité par rapport au nombre de patients, quels sont les patients qui pourraient bénéficier dans l'avenir de ce type de traitement.
C'est une maladie qui touche un garçon sur 17 000 à la naissance. C'est une maladie idéaliste, mais c'est en fait une maladie qui touche 1 sur 20 000 garçons et filles, je vais y revenir. Il y a basiquement deux formes de la maladie. Il y a une forme cérébrale et une forme qui touche la moelle épinière. La forme cérébrale touche au moins 65% des garçons, dans 2 fois sur 3 dans l'enfance, 1 fois sur 3 à l'âge adulte. C'est ces adultes atteints de forme cérébrale dont je parlais. Il y a environ 35% des hommes adultes qui ne développent pas de forme cérébrale et qui restent avec une forme médulaire qui touche à moelle épinière uniquement et qui est conduit à une grave incapacité motrice. 65% des femmes conductrices présentes, les porteuses, présentent également une atteinte de la moelle épinière sévère. Sur court terme, c'est traiter des enfants qui sont candidats à la greffe de moelle osseuse sans donneur. Déjà, on y travaille, c'est traiter des enfants et des adultes avec ou sans donneur, sauf s'ils étaient HLA identiques, sauf s'ils avaient un frère ou une sœur HLA identique. On a également pas mal d'arguments pour penser que ce traitement pourrait être étendu aux formes médulaires de la maladie, à la fois clinique et expérimentale. Ça, c'est un petit peu plus lointain. Il sera nécessaire que l'on
à la fois que l'on fasse des progrès dans la efficacité de correction des cellules sous schématopoétique pour pouvoir réduire l'intensité du conditionnement et d'introduire la toxicité. C'est important aussi cette maladie, aux États-Unis, il y a un programme de dépistage néonatal qui est en train d'être validé dans le Maryland. J'espère qu'on va pouvoir proposer dans quelques années, mais pas dans 10 ans, une possibilité aussi de dépister cette maladie à la naissance et qu'elle va se rajouter aux 5 maladies qui sont un peu non dépistées en France, alors qu'il y en a maintenant plus que 16 depuis une semaine, il y en avait 17 la semaine dernière aux Pays-Bas.
Bonjour, Sébastien Boller pour la séance. Vous venez de dire un garçon sur 20 000, donc ça fait beaucoup plus que 2 enfants. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de demandes? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Est-ce que ces enfants-là ont été choisis pour des raisons particulières? Est-ce qu'il y a des cas où la thérapie sera plus indiquée que dans d'autres?
Ces enfants, entre guillemets, ont été choisis, oui, pour des raisons particulières. La première, avant tout, c'est qu'ils étaient candidats à pouvoir effectuer chez eux une greffe de moelle osseuse classique parce qu'ils avaient été dépistés au début de leur maladie et qu'on avait des éléments pour savoir qu'elle allait être rapidement évolutive. Le deuxième élément important, c'est qu'il n'y avait pas de donneur pour ces deux petits garçons, et c'est pareil pour le troisième. Et donc, la thérapie génique, pour eux, était la seule alternative pour espérer que la maladie n'évolue pas vers un état gravataire en quelques mois, disons deux ou trois ans. Donc la réponse est oui, même c'est une maladie rare, mais qui n'est pas si rare que ça. Et donc, si on considère, sans mettre de perspective à court terme pour traiter les hommes et les femmes adultes qui n'ont qu'une atteinte de la moelle osseuse, si vous faites le calcul sur la population européenne, si vous faites le calcul sur la population américaine, le nombre d'enfants qu'il va falloir traiter des deux côtés de l'Atlantique va augmenter assez drastiquement dans les années à venir, et c'est justement parce qu'on anticipe ça qu'on s'y est préparé qu'on travaille là-dessus.
Bonjour. Au risque de poser une question un peu naïve, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a fallu 16 ou 20 ans pour arriver à ce résultat, sachant que vous disiez que vous aviez bénéficié des travaux de M. Fischer, donc il y a 10 ans, mais quels sont où y a-t-il eu des verrous qui vous ont empêché d'aller plus?
Ce travail, nous l'avons commencé en 1993 quand Patrick Aubourg a cloné le gène de l'adrénolocodystrophie. Et nous avons commencé, comme tout le monde à cette époque, en utilisant des vecteurs rétroviraux du dérivé de la souris, murin, qui arrivaient à corriger des cellules dans la moelle osseuse, mais qui étaient extrêmement peu efficaces. Et les seules maladies dans lesquelles ces vecteurs étaient efficaces, c'était ces fameuses maladies dans lesquelles il y a un avantage sélectif des cellules corrigées sur les cellules malades. Ce sont ces déficits immunitaires, et c'est en particulier le cas du déficit immunitaire combiné sévère qui a été un succès dans l'équipe d'Anna Fischer et de Marina Cavazzana-Calvo, et aussi dans le déficit en adénosine gamma. Ce sont les seules maladies où, avec ces vecteurs, on arrivait à avoir une efficacité suffisante. Dans notre maladie, nous avions fait toutes ces étapes, tout ce travail préclinique avec le même type de vecteurs, mais nous pensions qu'en l'absence de tout avantage, il nous serait impossible d'avoir le moindre bénéfice thérapeutique chez les patients traités. Et nous avons attendu qu'apparaisse un petit peu dans le domaine scientifique le vecteur HIV modifié, délété de tout ce qui pouvait le rendre toxique, mais conservant des propriétés très importantes pour nous de capacité de correction des cellules souches, et en particulier les cellules souches de la moelle osseuse. Ceci était en 99, et ensuite il a évidemment fallu beaucoup de temps pour démontrer son efficacité, la faisabilité de l'ensemble, est passée de ce stade préclinique à un stade clinique avec le développement du vecteur de grade clinique grâce à la collaboration que nous avons eue avec la firme Cell Genesis aux États-Unis, qui nous a permis ensuite de déposer une demande d'autorisation auprès des agences réglementaires et enfin de démarrer l'essai en début 2006. Donc un très long parcours du combattant, mais qui a été nécessaire pour avoir le bon vecteur qui nous permettrait d'avoir une efficacité thérapeutique. Il faut voir que à cette époque, nous ne savions pas quel serait le nombre de cellules à corriger pour avoir un bénéfice thérapeutique. Et actuellement, je vous ai dit que 15% environ des cellules du sang étaient corrigées. Donc 15% des cellules suffisent pour avoir ce bénéfice thérapeutique dans le cerveau des enfants, mais ceci, nous ne pouvions évidemment pas l'anticiper. Et donc, ce que nous voulions, c'est avoir un vecteur qui nous permette d'avoir la correction la plus importante possible. Aujourd'hui, nous avons ce résultat. L'important aujourd'hui, c'est de travailler pour améliorer encore ce résultat, et donc le travail n'est pas terminé. Il faut qu'on arrive à passer de 15% à au-dessus de 50%, et ceci permettra de ralentir encore la progression de la maladie et de pouvoir traiter davantage l'enfant, car il pourra traiter les enfants un petit peu plus tard dans l'évolution de la maladie.
Une question peut-être un petit peu naïve, mais quel est le devenir de ces cellules souches une fois qu'elles sont corrigées ? Leur durée de vie, est-ce qu'elle se multiplie, puis comment la molécule produite diffuse, les cellules souches de moelle osseuse, et ça se passe dans le cerveau.
Ah oui, voilà, c'est effectivement la question clé, hein. Comment une maladie du cerveau est corrigée par une grève de moelle osseuse, une grève de cellules souches de la moelle osseuse. En fait, il y a dans notre cerveau une partie des cellules qui s'appelle la microglie, et ces cellules dérivent des cellules souches de la moelle osseuse, dérivent des macrophages, des monocytes de la moelle osseuse. Et on sait assez mal à quel stade ces cellules sont capables de migrer dans le cerveau, mais ce que l'on sait, c'est que quand on fait une greffe de moelle osseuse, une partie des cellules que l'on greffe est capable de franchir la barrière entre le sang et le cerveau, franchir cette barrière qu'on appelle hématocérébrale, migrer dans le système nerveux central et là remplacer cette microglie anormale par une microglie normale qui permet de corriger le déficit de la maladie. Alors quand on corrige les propres cellules souches des enfants, en fait on corrige une soupe de cellules qu'on appelle les cellules CD34, qui sont les cellules qui sont autorisées dans tous les protocoles de greffe classiques chez les patients actuellement. Et pendant ces cellules CD34, on sait qu'il y a une fraction des cellules que l'on appelle les cellules souches de la moelle. Mais ces cellules, elles ne sont pas marquées, elles n'ont pas une petite lumière qui s'allume pour nous dire qu'elles sont des cellules souches. Ce que l'on sait, c'est qu'avec le vecteur HIV, comme on préserve au mieux leur qualité en culture et lors de toute l'expérimentation qui permet d'aboutir à leur correction, on conserve bien leurs propriétés souches. Et ces propriétés souches, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Elles veulent dire que pendant toute la vie de l'individu, les cellules souches vont pouvoir donner les globules rouges, les globules blancs dans le patient, chez le patient, pour toute la durée de la vie, se reproduire et donner toutes les cellules sanguines pour toute la durée de la vie. C'est la seule façon d'avoir une correction qui dure, c'est d'avoir réellement corrigé la cellule qui va, toute la vie durant, donner naissance à toutes les autres, les globules rouges, les globules blancs. Et pour nous en particulier, donc, ces fameux globules blancs qui vont monter dans le cerveau et remplacer la microglie.
Donc il y aurait une usine de cellules corrigées qui serait en production, mais il y a moyen de le vérifier, ou c'est ce qui a été observé par d'autres moyens ou...
Alors, le moyen de vérifier, c'est de faire la preuve qu'on a bien ces fameuses cellules souches. On sait qu'on a des cellules CD34, celles qu'on a greffées. On sait que quand on regarde la moelle de nos enfants traités, on retrouve bien, 2 ans après le traitement, des cellules CD34 qui sont corrigées, dans lesquelles on a le bon gène. Mais comme je viens de vous le dire, on ne sait pas encore actuellement réellement caractériser finement, précisément, définitivement, la cellule souche. Ce que l'on sait, c'est qu'au bout de 3 ans, le fait de voir toujours dans le sang des enfants des cellules de toutes les lignées, et en particulier celles qui ont une durée de vie très courte, les cellules que l'on appelle les granulocytes dans le sang, elles ont une durée de 2 ou 3 jours. Si 3 ans après le traitement, on a toujours des granulocytes qui sont corrigés, 15% comme pour les autres types de cellules du sang, on a une bonne raison de penser qu'on a bien corriger les cellules souches. D'autre part, le travail de Christophe von Kahle a permis de démontrer que l'on a bien des cellules qui ont les mêmes intégrations du vecteur de thérapie génique dans les différents lignages, les globules rouges, les lymphocytes, les monocytes. Et ceci est un argument très fort pour penser qu'on a bien conduit, qu'on a bien corrigé une cellule qu'on peut appeler souche, ou en tout cas très précurseur.
Et il est prévu de faire des vérifications à espace de temps régulier chez
Absolument,
les enfants.
Absolument, ceci est réalisé de façon tout à fait régulière. Christophe, je ne sais pas si Christophe veut ajouter un mot là-dessus.
Je voudrais faire un autre commentaire, c'est que là, en effet, de l'analyse faite par Christophe von Kahlo et son équipe, montrant que des cellules d'origine différente, on dit lymphoïdes pour les lymphocytes et B, myéloïdes pour ceux qui vont donner les polynucléaires ou les monocytes, ont des sites d'intégration identiques. Il y a un autre élément aussi qui, je dirais plus simplement, c'est que dans le sang, il y a des polynucléaires, des monocytes, qui ont une durée de vie de 2 à 4 jours, qui m'arrêtent à 26 jours.
Les monocytes, c'est plus long.
Non, les monocytes, c'est contesté, mais bon, voilà. Prenons simplement les polynucléaires, je parle sous le couvert de spécialistes, de 2-3 jours. Et quand on prouve, 3 ans après, que l'expression du gène thérapeutique, l'expression de la protéine est toujours au même niveau, dans le même pourcentage de polynucléaires 3 ans après, comme il était à 2 ans, comme il était à 1 an et demi, c'est bien sûr indirect, mais il n'y a qu'une explication. C'est qu'il y a forcément, très probablement, une cellule souche, pratiquement souche, qui est à l'origine de ça, et qui donc a été corrigée. Le problème, c'est comme le vient de dire le docteur Cartier, c'est que personne n'a encore isolé la fameuse cellule souche hémopoïétique. Elle reste bien mystérieuse. On a des moyens de l'étudier de manière indirecte, mais je veux dire que personne n'a encore la mise dans le local pour pouvoir l'étudier. Donc on étudie en fait une population qui a des propriétés de cellules souches, et c'est par à la fois des expérimentations in vitro ou chez l'animal ou chez l'homme qu'on peut indirectement dire en effet on a corrigé des cellules souches hématopoïétiques.
Je peux dire que les vecteurs marquent les cellules et beaucoup des observations que l'on a fait dans ces études ici ne sont pas faites avant en des personnes normales. Alors nous ne savons pas quelle est l'histoire normale de la fonction du système hématopoïétique. Mais tout ce que nous savons, cela veut dire que 2 ans, ça veut prédire que la fonction est très stable longtemps.
C'est un point important sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'au-delà de bien sûr de traiter une maladie grave, en fait ça va aussi faire progresser le domaine de la biologie dans les hématopoïètes, parce que comme le dit le professeur Van Kahlo, c'est la première fois finalement que l'on peut suivre chez l'être humain des cellules souches hématopoïétiques qui ont été marquées, hein, qui ont une petite lumière, puisqu'on peut en reconnaître à chaque fois avec leur intégration. Et donc c'est la première fois qu'on peut étudier chez l'homme réellement l'hématopoïèse, la clonalité de l'hématopoïèse. Et donc ça c'est un domaine qui intéresse tous les biologistes et tous les cliniciens qui sont concernés par l'hématologie.
Je m'interroge sur quel est le mécanisme d'action du gène thérapeutique. Est-ce que vous pouvez expliquer à peu près simplement ou grossièrement peut-être?
Le mécanisme d'action du gène thérapeutique, en fait, je vais répondre de deux façons. Comment on pense que ça marche dans cette maladie? Le gène thérapeutique, ce n'est pas une enzyme. Donc, elle n'est pas sécrétée à partir des cellules, que ce soit dans le cerveau, des cellules microbiales corrigées. C'est une protéine qui est un peu compliquée, qui est enchâssée dans la membrane d'une organelle à l'intérieur des cellules, qui joue le rôle de transporteur d'acide gras. Donc, quand on fait une greffe de moelle osseuse, on n'apporte pas une enzyme. Tout ce qu'on corrige, c'est les cellules de la microglie et rien d'autre. On ne corrige pas les oligodendrocytes, les cellules spécialisées qui font et qui entretiennent la myéline. On ne corrige pas les autres. Et en fait, dans la granulocodystrophie, on a un certain nombre d'arguments pour penser qu'on est un peu dans la même situation qu'une autre maladie neurologique qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique. Les patients atteints de cette maladie redoutable meurent parce que leurs neurones dans la moelle épinière, leur motoneurones ne fonctionnent pas bien et finissent par disparaître. Et en fait, on s'est aperçu que c'est peut-être pas là le problème véritable. Le problème véritable, c'est les cellules qui sont à côté, les astrocytes, et les cellules microbiennes. Même si ça reste encore essentiellement du domaine expérimental, mais dans les modèles animaux, si on greffe des astrocytes aux souris qui ont une forme de sclérose latérale amyotrophique, on les guérit, on prévient la maladie. Si on fait la même chose avec une greffe de moelle osseuse, on fait la même chose. Dans la vanoglucodystrophie, on pense qu'on a un effet similaire. Il est important, et c'est très important aussi pour les familles et pour les médecins, la thérapie génique, ça ne fait pas mieux que la greffe de moelle osseuse, ça fait pareil. On espère qu'en corrigeant un pourcentage plus important, on va raccourcir cette période pendant laquelle la maladie continue de progresser, pour que les enfants aient le moins possible de déficit cognitif. Mais la greffe de moelle osseuse, ça ne répare pas la myéline. Ça permet une réversibilité minime des lésions, ça arrête le processus. Et en fait, c'est une véritable forme de thérapie cellulaire. On commence à voir sur le plan expérimental des éléments qui indiquent que la microglie dans la vanoglucodystrophie a une fonction anormale, non pas anormale en termes de fonction macrophagique du cerveau, mais en termes de fonction de cellules qui permettent le soutien des os d'à côté, et en particulier des oligodendrocytes qui fabriquent et maintiennent le myéline.
Une question sur le risque potentiel de mauvaise intégration du vecteur, comme ça a pu être vu dans les essais précédents. Est-ce qu'il y en a plus avec ce nouveau vecteur, ou est-ce qu'il y a potentiellement, chez certains patients, on pourrait avoir un risque?
I will ask to Christophe to answer.
J'essaierai en français, mais je... Il me faut... I can now also switch to English. There are two types of risks. In general, of course, that the expression of the therapeutic product itself could produce a side effect, or that the entry of the vector into the genome could produce a side effect. The side effects that one has seen earlier had to do majorly with the...
If there is translation...
Yes, after every sentence. Yes. So, il y a deux problèmes. Une est que les... Okay, you can translate. Okay. So there's two problems. One, that the vector product itself could cause a side effect, which is, I think, what the trial is already showing is not happening. The other is that the presence of the vector in the genome of each individual target cell could, in one of these cells, cause a problem. That has been the case earlier in other vector systems because the vectors switched on neighboring genes where they had inserted, and that additional activation has caused problems.
Pour résumer, basiquement, il y a toujours deux problèmes majeurs. Là, potentiellement, c'est le fait qu'on utilise un vecteur dérivé du sida. Bien sûr que même si on a tout fait pour ce vecteur médicament soit totalement inoffensif mais ne puisse pas se répliquer, il y avait ce risque potentiel, même si on n'était pas très inquiet, même si en fait il avait déjà été utilisé pour traiter des lymphocytes de patients atteints de sida aux États-Unis et avec un vecteur beaucoup moins sécuritaire. Le deuxième problème était et reste encore aujourd'hui le fait que même si ce vecteur lantiviral s'insère, et même si ce vecteur lantiviral, de par son design, de par aussi sa biologie, comporte intrinsèquement moins de risques que les vecteurs rétroviraux en termes de modifier la biologie des cellules après l'insertion dans le génome, dans les chromosomes, il n'en reste pas moins vrai qu'on a appris que le génome, c'est quelque chose, une bête très vivante, dès qu'on insère quelque chose. Un bout d'ADN, n'importe quoi, ça peut modifier la biologie de la cellule.
And so the way this would announce itself early is that the numbers of cells that contribute to blood formation would change. And so what we can do with the modern technologies is have an ongoing, if you wish, head count, the counting the number of each individual cell that contributes to blood formation. And by looking at that head count and seeing that the heads are sort of evenly distributed, we can follow, at least trying to predict whether any undue situation should be developing, and that is not the case.
En fait, la stratégie qu'a développée Christophe Moncalieu est la suivante, à la fois sans rentrer dans, dans les détails sur le plan technologique, mais tout a été quand même nouveau, même à partir de techniques préexistantes, mais nouveau aussi bien la façon de pouvoir récupérer les fragments d'ADN insérés, que bon, le séquençage au débit, ça commence à devenir conventionnel, mais toute l'analyse. Basiquement, l'idée est la suivante. Si une insertion d'un fragment du vecteur modifie la biologie de la cellule qui va faire qu'elle va grossir un petit peu, qu'elle va croître un petit peu en nombre. Je ne parle pas du terme de dominance clonale, et qui est lui-même est bien en amont ce que le phénomène de que la complication de cellule. Et ben s'il y a une augmentation du nombre de cellules qui ont une intégration donnée, donc il y a un effet biologique, et bien on va récupérer cette intégration plus fréquemment. Et ce qu'a expliqué Christophe Moncalieu, c'est qu'on a regardé au cours du temps, dans toutes les cellules, chez les deux patients traités, et pour le moment chez le troisième jusqu'à un an, c'est pareil, à chaque fois qu'on garde, c'est pas la même fréquence. Si on regarde, je dirais, la top liste des insertions les plus fréquemment retrouvées, c'est à chaque fois une différence. Alors, c'est pas une preuve bien sûr absolue qu'il ne se passe rien, certainement au niveau biologique, il y a des phénomènes qui se passent, lié au fait qu'il y a bien du matériel étranger qui est inséré. Et pour le moment, aucun élément qui soit détectable en termes de conséquences biologiques réelles. Alors en fait, pour le moment, on est en train de regarder beaucoup plus précisément l'expression des gènes, etc. Enfin, des choses un petit peu plus pointues en termes de biologie. Mais rien de détectable, en tout cas en termes de croissance cellulaire anormale, rien de détectable en termes de dominance clonale. Encore une fois, dominance clonale, c'est un événement biologique, c'est pas un effet indésirable, grave, et à plus forte raison, pas évidemment le moindre risque. Ceci étant, restons prudents, même si ça a été étudié de manière prospective et de manière tout à fait innovante. Et ceci pour 3 ans pour le premier patient, 2 ans et demi pour le deuxième et maintenant 1 an. Il faut rester prudent. On a un recul de cette période-là. Il faudra traiter plus de patients, plus longtemps, pour être définitivement rassuré.
Bonjour Pierre Caldi, Sciences et Avenir. C'est une question pour Mme Sinbeis. Je voulais savoir si vous deviez refaire l'expérience de 2000, est-ce que vous utiliseriez ce nouveau vecteur antivirus amélioré qui a priori dans les dépôts?
En fait, nous allons reprendre un essai très prochainement. Nous attendons les autorisations des agences réglementaires et nous allons utiliser un vecteur qui a été sécurisé à peu près de la même façon que le vecteur utilisé pour le traitement de la neurodystrophie. Donc évidemment, on ne va plus utiliser le vecteur que nous avons utilisé il y a 10 ans. Il faut savoir que le vecteur utilisé il y a 10 ans dérivait des recherches initiées il y a 20 ans. Donc il y a toujours un décalage entre les développements scientifiques et la réalisation clinique. Donc oui, nous allons initier un nouvel essai dans quelques mois avec un vecteur sécurisé. Mais comme vient de le dire le professeur Aubourg, encore une fois, ces vecteurs sécurisés sont, devraient réduire significativement, entraîner une réduction significative du risque de mutagénèse insertionnelle, mais sans l'éliminer totalement, ce risque. J'ai répondu à la question à peu près ?
Je voudrais faire un commentaire pour dire que l'essai qui a été développé par Marina Cabazzana, Fischer et Salima dans les enfants d'ici doit avant tout être considéré comme un succès. Tu m'arrêtes Alain si les chiffres sont faux, mais entre ceux qui ont été traités à Paris et par Adrien Trachère, je crois 17, 19.
20 malades traités.
20 malades traités. Voilà. Pour deux, ça ne parle, la thérapie génique n'a pas marché en tant que telle. C'était des enfants qui étaient un peu plus âgés. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des raisons qui expliquent pour cela. Il y en a 18 qui auraient donc, pour lesquels la thérapie génique a eu un clair effet sur le plan clinique, biologique, leur vie de tous les jours est complètement rien à voir, sans parler qu'ils sont probablement la majorité déjà décédés. Sur les 18, il y en a 5 qui ont développé une leucémie, c'est ça. Il y en a un qui a décédé, une leucémie malheureusement. Les autres, les 17, donc 16 sur 17. 16 sur 17, bon, sont non seulement toujours vivants, 17 sur 17, sont non seulement toujours vivants, mais sont toujours guéris de leur maladie, et sont toujours guéris de leur leucémie. Vous faites le calcul, le risque de mortalité, je crois qu'on est autour de 5%. Si vous regardez la greffe classique, c'est 15% chez l'enfant. Si vous regardez les traitements qu'on utilise anticancéreux, pour beaucoup d'entre eux, c'est beaucoup plus que ça. Donc je crois que, bien sûr qu'on voudrait atteindre le zéro risque. Le zéro risque en médecine, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais. Je crois qu'il faut avant tout considérer cet essai comme un succès, comme l'autre essai développé par nos collègues italiens. Et j'insiste pour relativiser ce qui a pu être mis en avant quelquefois comme de manière défaitiste sur cette complication. Oui, on est l'équipe de Marina et Alain et Sabine et Tracha sont bien sûr très tristes de ce qui s'est passé pour cet enfant qui est décédé de leucémie. Mais encore une fois, il faut relativiser les choses. On se bat pour essayer de traiter des maladies intraitables. Il y a des formes classiques de traitement, que ce soit les anticorps monoclonaux, les médicaments, qui ne peuvent rien faire dans ces maladies. La thérapie génique, ça ne va pas tout résoudre. C'est surtout ça utile si on traite au début. Mais c'est un outil qui, dans beaucoup de maladies, pour le moment en tout cas, est le seul qui laisse espérer une possibilité de traitement efficace pour ces enfants et également ces adultes.
Merci docteur Aubo. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, maybe the speakers would like to finalize or give final comments before we conclude, or if you would like to speak. No? Ok. J'aimerais remercier ici tous les intervenants et les journalistes pour leur présence ici aujourd'hui. Au nom à la fois de Science et de AAAS, son éditeur, Anselm, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'Université Paris-Descartes, Centre allemand de recherche sur le cancer, AFM-ELA et STOP-ALD. Les documents pour la presse dont l'article sont disponibles et c'est sous embargo jusqu'à demain, 20h, heure de Paris. Un enregistrement de ce point presse sera aussi disponible sur le site du Science Press Package un peu plus tard dans la journée. Merci.
Thank you very much. That was lovely.